Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 6 septembre 2024. Incendie dans une école au Kenya, 17 enfants ont perdu la vie et 70 autres sont portés disparus. Au Niger, des membres du Congrès américain rencontrent les autorités du pays. Les Algériens se rendent aux urnes demain samedi dans le cadre de la présidentielle. 4 candidats sollicitent les suffrages de 24 millions d'électeurs. En Haïti, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis au gouvernement de transition face à la crise.
Il n'y a même pas un groupe de gangs qui a été démantelé sur un territoire dans les 85%.
Raph François Emmanuel, activiste politique et entrepreneur social, fera le point dans la partie magazine. Fin aujourd'hui du forum sino-africain, de nombreux accords ont été signés entre Pékin et les pays du continent. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les manifestations contre la junte en Guinée ont fait 2 morts mercredi et jeudi, selon leurs organisateurs, que le porte-parole du gouvernement a promis ce vendredi de poursuivre en justice, les accusant de diviser le pays. Malgré un mouvement de contestation peu suivi jeudi, le collectif Les Forces Vives de Guinée ont déploré dans un communiqué la mort d'un jeune homme de 17 ans, victime selon elle d'un tir des forces de sécurité, en plus d'une femme qui avait été tuée la veille. Dans le centre du Kenya, au moins 17 enfants ont péri dans un incendie qui a ravagé la nuit dernière le dortoir de leur école primaire. Les précisions avec John Lindon.
L'incendie à l'académie Hillside Endarasha du comté de Nyeri s'est déclaré vers minuit selon la police, qui précise que l'âge moyen des victimes est d'environ 9 ans. L'école, qui accueille quelques 800 élèves âgés de 5 à 12 ans environ, se trouve dans une zone semi-rurale à quelques 170 km au nord de Nairobi. La porte-parole de la police, Resila Onyango, a laissé entendre que plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 16 grièvement, ajoutant qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Une centaine de parents étaient massés devant l'école attendant d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Certains ont trouvé refuge dans des maisons alentour, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, venu sur place. Ceux-là sont vivants et en bonne santé, mais bien sûr traumatisés, a-t-il ajouté. Évoquant une nouvelle dévastatrice, le président kényan William Ruto, actuellement à Pékin pour un sommet sino-africain, a exprimé ses condoléances.
70 enfants sont toujours portés disparus, a annoncé le vice-président kényan Rigathi Gachagua. Une délégation du Congrès américain a visité le Niger cette semaine pour échanger avec les autorités sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, selon la représentation diplomatique américaine à Niamey. Les membres de la délégation ont rencontré des responsables du gouvernement militaire de transition. Des précisions avec Abdul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Selon les médias publics, la délégation conduite par le député Austin Scott et composée de ses collègues Ronnie Jackson et Jimmy Panetta a été reçue par le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. Ils ont fait l'état des lieux de la coopération entre les deux pays pour s'entendre sur un nouveau paramètre de coopération. Le chef de la délégation américaine a déclaré, selon la télévision nationale Télé-Sahel, que le Niger, en tant qu'État souverain, a le droit de choisir ses partenaires de manière indépendante. Aussi, il a mentionné que depuis le coup d'État, les attaques terroristes ont baissé. La partie nigérienne a réaffirmé par la voix du général Toumba que quiconque souhaite nuire à la souveraineté du Niger doit partir. Les véritables amis du Niger doivent prouver leur loyauté, a-t-il indiqué. Les sujets ainsi discutés feront, à la demande de la partie américaine, l'objet d'approfondissement dans une réunion dans les prochains jours. La visite de cette délégation intervient quelques semaines seulement après la fin officielle du retrait des soldats américains exigé par les autorités militaires au pouvoir depuis le 26 juillet 2023. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les deux parties en guerre au Soudan ont commis des abus à grande échelle qui pourraient constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, a déclaré ce vendredi une mission mandatée par l'ONU. La mission onusienne a recommandé dans son rapport un embargo sur les armes et une force de maintien de la paix pour protéger les civils. L'opposant ougandais Bobi Wine, qui a subi une blessure par grenade lacrymogène mardi, a annoncé ce vendredi que son parti envisage des poursuites contre la police à la suite de l'incident de mardi. Washington, par la voix du porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, avait exprimé sa préoccupation face au rétrécissement de l'espace démocratique en Ouganda. L'Éthiopie a libéré de prison 7 opposants originaires de la région en conflit d'Oromia, selon leur parti, une annonce saluée aujourd'hui par l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch. Les opposants libérés appartiennent au Front de Libération Oromo, qui se considère comme le porte-parole du peuple Oromo, lequel rassemble environ un tiers des 120 millions d'habitants de l'Éthiopie. En Algérie, quelques 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain samedi pour la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, brigue un second mandat. Les électeurs se disent plus préoccupés par les effets de l'inflation sur la flambée des prix. Alexandrine Oulognon.
Il y a peu de signes d'enthousiasme à l'approche de l'élection présidentielle algérienne de ce week-end. Les électeurs potentiels se disent plus préoccupés par les effets d'une inflation prolongée sur les prix des fournitures scolaires, des pommes de terre et du café qui montent en flèche. Le président Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, soutenu par l'armée, semble prêt à remporter un second mandat. L'autorité électorale n'a approuvé que 2 candidats pour défier Tebboune, Abdelali Hassani, président du principal parti islamiste, et Youssef Aouchiche, chef du Front des Forces Socialistes. Les 3 candidats ont incité les citoyens à voter. Dans ce pays de 45 millions d'habitants, plus de 23 millions sont inscrits sur les listes électorales. Les candidats espèrent améliorer le taux de participation de 14% des électeurs de 2019 que les manifestants du mouvement Irak avaient boycotté. Des personnalités de l'opposition considèrent ce scrutin comme un exercice d'approbation et certains partis politiques l'ont boycotté plutôt que de présenter des candidats.
En Tunisie, la justice a de nouveau placé en détention Ayachi Zamel, l'un des 2 candidats à la présidentielle du 6 octobre, face au président sortant Kais Saied pour falsification de parrainage. L'Union européenne a dénoncé hier des atteintes à la démocratie en Tunisie après l'arrestation de M. Zamel et l'exclusion des 3 autres candidats, regrettant des décisions qui ont pour conséquence de limiter l'éventail de choix pour les citoyens tunisiens.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet Chine-Afrique organisé à Pékin s'est clôturé aujourd'hui. Pour le gouvernement chinois, l'événement a été un succès total. Le point avec Jacques Aristide.
La Chine et ses 53 partenaires stratégiques africains se tiennent épaule contre épaule et joueront certainement un rôle encore plus important dans la promotion du bien-être des peuples chinois et africains et dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité mondiale, a déclaré Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse avec ses homologues du Sénégal, Yassine Fall, et de la République du Congo, Jean-Claude Gagosu. Les 2 parties ont adopté à l'unanimité 2 documents importants, la déclaration de Pékin et le plan d'action de Pékin, a ajouté Wang Yi. Selon lui, toutes les parties ont salué le plein succès du sommet. Pour Jean-Claude Gagosu, la coopération sino-africaine est exemplaire, prometteuse et un cas exceptionnel dans l'histoire du monde moderne. Le ministre congolais a cité notamment le bitumage de routes, la modernisation d'aéroports, de ports ou la construction de logements sociaux. Hier, le président chinois Xi Jinping a promis sur 3 ans plus de 50 milliards de dollars, dont la moitié sous forme de crédit aux pays africains. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024, d'après les médias officiels chinois.
Après des mois de campagne, la présidentielle américaine rentre dans le vif du sujet. L'un des États les plus disputés du duel entre Donald Trump et Kamala Harris prévoit de lancer ce vendredi ses opérations de vote par correspondance. La Caroline du Nord doit débuter dans l'après-midi l'envoi de plus de 100 000 bulletins de vote à ceux qui ne souhaitent pas se déplacer en personne pour l'élection du 5 novembre. Cet État du sud-est du pays fait partie des 6 ou 7 qui pourraient déterminer le vainqueur de la présidentielle. Le prononcé avancée de la peine de Donald Trump condamné au pénal en main à New York a été repoussée ce vendredi après l'élection présidentielle américaine, une victoire de taille pour le candidat républicain. L'ancien président condamné dans une affaire comptable ne sera fixé sur sa peine que le 26 novembre et non en septembre, a tranché un juge en début d'après-midi aujourd'hui. Une jeune américaine américano-turque a été mortellement blessée par balle à la tête ce vendredi lors d'une manifestation contre la colonisation israélienne à Beïta, dans le nord de la Cisjordanie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déploré la mort de cette Américaine et dit que les États-Unis agiront si nécessaire. Et puis, le pape François, 87 ans, est arrivé aujourd'hui à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour une visite qui s'achève deuxième étape de sa tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le pape rentrera à Rome le 13 septembre au terme de son plus long voyage à ce jour. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Lors du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Pékin, la RDC a sollicité le soutien des investisseurs chinois pour le développement de ses infrastructures numériques. Le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a évoqué l'extension du réseau de fibres optiques, la couverture 3G et 4G en zone rurale, la construction de centres de données et la mise en place d'une infrastructure satellitaire. Lors du dernier Conseil des ministres à Madagascar, il a été décidé d'élargir les missions du Fonds pour le développement des télécommunications et technologies de l'information. Selon le régulateur Télécom, malgré cette nette augmentation d'abonnés au service Internet ces 5 dernières années, le taux de pénétration n'est que de 17%. Au Nigeria, l'État de Lagos a signé un accord de coopération avec ICA, une filiale du groupe agroalimentaire chinois Wilmar International, dans le secteur du riz, de la culture à la transformation. La ville de Lagos abrite la plus grande usine de traitement de riz depuis janvier 2023, dotée d'une capacité de traitement de 32 tonnes de paddy par heure.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite ce vendredi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, de gros matchs au programme ce vendredi, 0-0 entre le Kenya et le Zimbabwe. La championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, affronte la Zambie à Bouaké. Le Sénégal joue à domicile contre le Burkina Faso. Le Maroc accueille le Gabon. L'Égypte reçoit le Cap-Vert. Début réussi hier pour la République centrafricaine, qui a battu le Lesotho 3-1. Le Malawi a perdu 2-3 face au Burundi, 1-0 pour le Congo devant le Soudan du Sud. Le Ghana a été surpris à domicile sur le même score par l'Angola, 1-0 également pour la Guinée-Bissau, vainqueur de l'Iswatini.
Ici aux États-Unis, Alex Morgan annonce sa retraite sportive.
L'internationale américaine a annoncé hier qu'elle prendrait sa retraite sportive à l'issue d'un ultime match avec son club ce dimanche. L'attaquante de 35 ans, double championne du monde en 2015 et 2019 et championne olympique en 2012, a expliqué qu'elle jouerait son dernier match dans le championnat de football féminin américain avec son club de San Diego Wave. Alex Morgan est aussi connue pour son engagement en faveur de l'égalité homme-femme dans le sport. En 14 ans de carrière internationale, elle a marqué 123 buts, devenant la cinquième meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe féminine américaine. Alex Morgan compte aussi 9 buts en Coupe du Monde et 6 buts aux Jeux Olympiques. Elle a joué son dernier match avec les États-Unis en juin contre la Corée du Sud.
Athlétisme, Letsile Tebogo brille encore à Zurich.
Le Botswanais, champion olympique du 200 mètres, a remporté hier soir le 200 mètres du meeting de la Ligue de Diamants à Zurich dans un temps canon 19 secondes 55. Letsile Tebogo, qui poursuit depuis les JO son été doré en enchaînant les victoires de prestige en meeting, a pris la tête de la course dans les tout derniers mètres alors que l'Américain Kenny Bednarek, deuxième aux JO, était encore devant. Au final, le jeune sprinter de 21 ans a coupé la ligne en 19 secondes 55 malgré des conditions pas idéales, 2 centièmes devant Bednarek. Chez les dames, la sprinteuse américaine Shakari Richardson, deuxième aux 100 mètres aux JO de Paris, s'est offert une petite revanche en battant la championne olympique Julien Afred. Pour sa première course depuis les Jeux, en tête tout au long de la course, Alfred s'est fait souffler la victoire sur la ligne grâce à un retour canon de Richardson, flashé à 10 secondes 84.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Oudraoui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La toute dernière fusillade dans un lycée de Géorgie, mercredi, rappelle de manière brutale le taux élevé de mortalité par arme à feu. Aux États-Unis, la candidate démocrate Kamala Harris veut une réglementation plus stricte sur les armes à feu, alors que son adversaire, l'ancien président Donald Trump, veut assouplir les restrictions sur les armes à feu. Le point avec Veronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
La récente fusillade perpétrée au lycée Appalachie, à Winder, en Géorgie, a fait au moins 4 morts et 9 blessés. La candidate démocrate à la présidentielle de novembre, Kamala Harris, a évoqué le drame lors d'un meeting de campagne dans le New Hampshire.
Nous devons mettre fin une fois pour toutes à cette épidémie de violence par armes à feu dans notre pays. Vous savez, cela ne doit pas se passer ainsi.
Le sujet de la violence par arme à feu aux États-Unis a occupé une place importante lors de la Convention nationale démocrate de cette année. Harris a fait part de ses priorités sur la question dès le début de sa campagne.
Lorsque nous gagnerons en novembre, nous allons enfin adopter la vérification universelle d'antécédents, des ordonnances de protection contre des risques extrêmes et une interdiction des armes d'assaut.
Harris affirme qu'elle préconise des mesures raisonnables de sécurité concernant les armes à feu et qu'elle n'essaie pas de retirer les armes à tout le monde. Via Skype, Chris Brown, le président du centre Brady pour la prévention de la violence causée par les armes à feu, se dit convaincu que Kamala Harris tiendra ses promesses.
La candidate Harris a été très très claire sur le fait que la violence armée, première cause de mortalité des enfants américains, est un problème qui nécessite une approche à plusieurs niveaux pour le résoudre. Nous avons besoin d'une meilleure politique.
L'ancien président Donald Trump a réagi à la fusillade en Géorgie avec un message sur sa plateforme Truth Social. Il a exprimé son soutien aux victimes et a qualifié le tireur de monstre malade et dérangé. Les conservateurs défendent souvent le droit au port d'armes à feu, mais la Convention nationale républicaine de cette année n'a pas donné la priorité à ce sujet. L'événement a eu lieu en juillet, 2 jours seulement après que le candidat républicain a été la cible d'une tentative d'assassinat. L'incident n'a pas changé la position de Donald Trump sur l'accès des Américains aux armes à feu.
Si vous voulez retirer les armes, vous ne pouvez pas le faire, parce que les gens ont besoin d'armes pour se protéger.
Trump s'est tenu aux côtés des détenteurs d'armes à feu quand il était président et a promis de lever les restrictions imposées par l'administration Biden. Les groupes pro-armes à feu déclarent que si les électeurs qui possèdent des armes à feu se rendent aux urnes en novembre, ils pourraient faire pencher la balance en leur faveur dans les États clés. Alan Gottlieb, vice-président exécutif de la Second Amendment Foundation, via Skype.
Il faut reconquérir la Maison-Blanche afin que nous ayons une branche exécutive du gouvernement qui ne porte pas atteinte aux droits des armes à feu et dans les districts du Congrès, renforcer les droits des armes à feu à la Chambre des représentants et prendre le contrôle du Sénat des États-Unis.
Gottlieb note toutefois que contrairement à l'économie ou à l'immigration, le droit de posséder des armes n'a jamais été l'une des plus importantes préoccupations des électeurs.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu hier à Port-au-Prince pour réitérer le soutien de Washington à la force multinationale dirigée par le Kenya pour stabiliser Haïti plongé dans la violence des gangs et une crise humanitaire. Comment aligner les efforts internationaux avec les aspirations des Haïtiens? Eric Manirakiza a joint Ralph Emmanuel François, activiste politique.
On a compris que dans la déclaration de Blinken, et je répète qu'il dit que non seulement que cette mission a besoin d'être renouvelée, et il dit qu'il veut s'assurer que nous ayons quelque chose de plus durable. Et il a continué pour dire qu'il est en train d'envisager beaucoup d'options pour avoir une mission opérationnelle de paix des Nations Unies. Donc le mot durable dit beaucoup. Donc en termes d'évaluation, on le voit. Sur le plan politique international, on est en train de changer de régime. Sur le plan de la stratégie, il n'y a pas de stratégie qui est vraiment claire par rapport à la mission. Et sur le plan de l'opérationnalisation, on peut évaluer les résultats sur le terrain. Et là, je peux vous dire que, en fait, dans les données, 85% du territoire contrôlé par les gangs armés, beaucoup plus dans la zone métropolitaine du Port-au-Prince, les deux plus grands foyers sont la capitale, l'Ouest et la région de l'Antibonite. Donc vous avez 4 départements qui sont pratiquement coupés. Vous avez 600 000 personnes qui sont des déplacés internes. Et la question la plus simple, est-ce qu'aujourd'hui, avec la présence de la mission, il y a une réduction du pourcentage de territoires occupés par les gangs? Non. Donc, sur le plan de l'opérationnalisation, on n'a même pas de petites victoires. Sur le plan diplomatique, on voit effectivement, en termes de financement durable, on n'est pas encore arrivé au seuil, ou du moins au financement prévu pour la mission. Et on va être en octobre, il faut avoir un renouvellement de la mission. Et les États-Unis actuellement parlent de transfert, de changement de régime pour voir si on peut avoir une mission internationale de paix. Et ce sera difficile parce qu'il y a la Russie et les États-Unis et la Chine qui peuvent mettre leur veto par rapport à ça. Et aujourd'hui, Blinken est allé à Saint-Domingue dans le cadre de sa tournée et nous avons entendu le président dominicain parler d'une mission des Nations Unies. Donc c'est un autre élément d'engagement et ils sont en train également de constater que le violon semble difficilement s'accorder entre le niveau politique international, le niveau stratégique qui n'est pas clair et le niveau d'opérationnalisation qui peinent encore à donner quelques résultats. Donc c'est un peu mon opinion en termes d'évaluation.
Comment cette force multinationale de sécurité est-elle perçue par les citoyens haïtiens et répond-elle à leurs attentes?
On est dans la phase de lune de miel. On voit les soldats arriver, on voit qu'il y a du mouvement, on voit des matériels arriver, on voit effectivement qu'il y a de petites actions, mais en termes de résultats, il n'y a même pas eu de petites victoires. Il y a cette mentalité d'attentisme, les gens espèrent. Par exemple, avant la visite de Blinken, il y avait les Kenyans qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de matériel. Donc, ils n'avaient pas assez de matériel. Ce qui fait que quand ils interviennent dans un espace, ils ne peuvent pas faire la consolidation, c'est-à-dire occuper l'espace pendant un certain nombre de temps et empêcher que les gangs puissent retourner et récupérer cet espace-là. Donc, ils n'ont pas assez de matériel. Et maintenant, on voit qu'il y a des matériels qui arrivent. On sent qu'il y a un mouvement proactif et les gens, en termes d'émotion, l'émotion est toujours positive. Mais les gens attendent. Il n'y a aucun des 5 grands groupes de gangs, aucun grand chef de gang qui a été soit stoppé mortellement ou arrêté. Les territoires sont toujours occupés par des gangs armés.
Raph Emmanuel François, activiste politique haïtien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Direction le Malawi, le gouvernement, les ingénieurs routiers et les spécialistes de la sécurité routière ont cité le comportement humain et les mauvaises conditions routières comme des facteurs majeurs qui alimentent les accidents sur la route M1 du Malawi, le plus ancien réseau routier de pays d'Afrique australe. Construite par phase entre les années 70 et 80, la route est devenue un point névralgique pour les accidents mortels et les blessures. Jamal, Prince Jamal de VOA, rapporte depuis Lilongwe le récit de Gabi Dorsil.
Largement connue sous le nom de mère de toutes les routes, la route M1 relie le Malawi à ses 4 régions administratives, nord, centre, est et sud. Elle relie en outre le pays à la Tanzanie et au Mozambique. Le réseau routier de 1100 km est l'épine dorsale de l'économie du pays, car il facilite les échanges entre le Malawi et ses voisins. Mais au fil des ans, la route M1 a coûté la vie à de nombreux citoyens du pays, s'attirant le surnom de piège mortel. Selon le rapport de la police malawite pour 2023, le pays a enregistré 4977 accidents de la route, dont 389 mortels. Le 6 août 2004, Zenam Founé, alors âgé de 20 ans, a survécu de justesse à un accident mortel sur cette route qui a coûté la vie à 29 autres membres d'une chorale. Founé, qui a survécu à ce tragique accident avec 5 autres personnes, a aujourd'hui 40 ans. Elle a souffert d'une dislocation de la moelle épinière et d'une grave fracture de la cheville.
C'était le 6 août 2004, alors que nous nous rendions à Zomba, dans la région sud du pays, pour une activité d'église et pour assister à un service commémoratif d'un membre de l'église décédé à Litimpe. Notre véhicule a perdu le contrôle et est sorti de la route. Il y avait un silence total parmi nous, les femmes. Nous ne pouvions pas dire ce qui se passait.
Maintenant divorcée, avec 5 enfants à charge, Zenam Founé a confié à La Voix de l'Amérique que chaque jour, elle doit endurer une douleur physique atroce résultant de sa blessure due à l'accident, dans son désespoir de subvenir aux besoins de ses enfants. Le ministre des Transports et des Travaux Publics du Malawi, Jacob Ara, évoque ainsi sa préoccupation.
Les accidents de la route en général sont une grande préoccupation pour nous. Ils prennent environ 3% de notre produit intérieur brut annuellement et c'est énorme quand on regarde l'investissement que le pays fait dans son capital humain.
Le gouvernement et d'autres parties prenantes clés ont attribué les accidents sur la route au comportement humain et au mauvais état de la route qui, selon le ministère des Transports et des Travaux Publics, n'a pas été entretenu depuis des années. Ces derniers temps, le gouvernement et le secteur privé ont fait des efforts collectifs pour ralentir le taux d'accidents sur la route. La Road Safety Foundation, une organisation à but non lucratif qui vise à réduire les accidents de la route et à promouvoir la sécurité routière dans le pays, a été activement impliquée dans la promotion de mesures de sécurité le long de la route M1. Joël Géré, fondateur et directeur exécutif de la Fondation pour la sécurité routière.
Nous avons plusieurs interventions. Nous faisons de la gestion de la vitesse, où nous engageons le gouvernement à adopter l'exigence mondiale de 30 km/h. Chaque pays devrait réduire la vitesse. Et aussi, nous faisons de la sensibilisation auprès des conducteurs et des piétons sur la façon d'utiliser la route. À notre arrivée, nous avons accru la sensibilisation des gens et le gouvernement prend des mesures pour renforcer l'application de la loi.
Selon le rapport 2021 de l'Organisation mondiale de la santé, le Malawi a la 9e plus forte incidence d'accident de la circulation au monde. Cette situation perdure malgré l'orientation progressive du Malawi vers la mise en œuvre et la pleine réalisation de son plan de développement, l'agenda Malawi 2063, qui, entre autres aspirations, vise à réduire les accidents de la route dans le pays.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
9 fois championne d'Afrique de lutte, la Sénégalaise Isabelle Sambou, qui a frôlé 2 médailles aux Jeux Olympiques de 2012 et 2016, est revenue dans son village natal pour former la prochaine génération de lutteuses. Des filles et femmes de Mlamp en Casamance pratiquent la lutte dans le cadre d'une tradition de plusieurs siècles. Nathalie Barge nous en dit plus.
Isabelle Sambou, 43 ans, a remporté 9 fois le championnat d'Afrique de lutte. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro. De retour chez elle, elle entraîne les femmes de son village dans l'espoir d'aider à former la prochaine athlète olympique.
Ici, dans mon village, les femmes luttent. C'est notre tradition.
La lutte est un sport national au Sénégal où les lutteurs sont célébrés comme des stars. Mais dans la majeure partie du pays, la lutte est restée interdite aux femmes. Sauf ici en Casamance où les femmes Diola luttent traditionnellement aux côtés des hommes.
Et puis quand tu fais la lutte féminine, il y aura beaucoup de dire. Il y a les gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Parce que moi j'ai vécu ça quand j'ai parti à Julien Chauve pour lutter. Quand je portais mes shorts, tout ça, je sors. Et il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a d'autres qui vont dire hey, c'est là, c'est une femme ou c'est garçon.
Isabelle Sambou passe désormais son temps entre Dakar et son village natal, où elle entraîne des filles à la lutte. Ayant frôlé la médaille olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle se dit déterminée à ce que l'une de ses jeunes recrues accède au podium.
Quand je suis arrêté jusqu'à présent, bon, j'ai pas de travail. Et je ne suis pas encore marié, peut-être, je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste quand j'ai arrêté, je suis revenu ici, au village, parce que je me suis dit, faut que je retourne chez moi pour aller trouver les futurs Isabelle, des futurs champions, ceux qui vont faire peut-être plus que Isabelle.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.